Audiolib présente Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, lu par Thibaut de Montalembert. À Punky, qui aime les romans policiers classiques, avec un cadavre, une enquête et des protagonistes tous soupçonnés à tour de rôle. Chapitre 1. Petit déjeuner en famille. Madame Ferrard mourut dans la nuit du 16 au 17 septembre, un jeudi. On me fit appeler le vendredi matin à 8 heures précises. Il n'y avait plus rien à faire. La mort remontait à plusieurs heures. Il n'était guère plus de 9 heures quand je regagnai mon domicile. J'entrai par la porte principale et pris délibérément mon temps pour suspendre mes vêtements au porte-manteau du vestibule. Mon chapeau d'abord, puis le pardessus léger dont j'avais jugé prudent de me munir. Les matinées sont fraîches au début de l'automne. À dire vrai, j'étais assez préoccupé pour ne pas dire inquiet. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'à cet instant, je prévoyais déjà les événements que me réservaient les semaines suivantes. J'en étais même fort loin. Mais mon instinct me soufflait que ma tranquillité était gravement menacée. De la salle à manger, située sur ma gauche, me parvint un bruit de tasses entrechoquées, puis la toux brève et sèche de ma sœur Caroline. « C'est toi, James ? » appela-t-elle. Question superflue. Qui d'autre cela pouvait-il être ? Mais c'était bien à cause de Caroline que je m'attardais ainsi, et non sans raison. S'il faut en croire Kipling, la devise de la gente mangouste tiendrait en 4 mots « va, cherche et trouve ». Et, selon moi, la mangouste conviendrait parfaitement comme emblème à ma sœur Caroline si elle devait avoir des armoiries. Quant à la devise, le dernier mot suffirait. Caroline trouve sans bouger de chez elle ni faire le moindre effort. Comment s'y prend-elle? Je l'ignore, mais c'est un fait. Rien ne lui reste caché. J'incline à croire que domestiques et fournisseurs lui servent d'agents de renseignement. Et quand elle sort, ce n'est pas pour aller aux nouvelles, mais pour les diffuser. Autre de ses talents, qu'elle exerce avec un brio confondant. C'est d'ailleurs ce dernier trait de caractère qui suscitait en moi l'hésitation dont j'ai parlé. Que je communique à Caroline le moindre détail sur le décès de Madame Ferrard, et en 1 heure et demie, tout au plus, la nouvelle aurait fait le tour du village. En tant que médecin, il va de soi que je suis tenu au secret professionnel. J'observe donc envers ma sœur une discrétion rigoureuse. En pure perte, il faut bien l'avouer, mais au moins n'ai-je rien à me reprocher. Il y a tout juste 1 an que le mari de Madame Ferrard est mort, et depuis, sans la moindre preuve, Caroline soutient que sa femme l'a empoisonné. J'ai beau lui répéter inlassablement que M. Ferrard a succombé à une gastrite aiguë, aggravée par un penchant un peu trop prononcé pour la boisson, elle ignore superbement mon opinion. Il est vrai que les symptômes de la gastrite et de l'empoisonnement par l'arsenic sont assez proches, mais Caroline fonde ses accusations sur de tout autres critères, et je l'ai maintes fois entendu déclarer « Cela va de soi, il n'y a qu'à la regarder, voyons ». Bien qu'ayant dépassé ce qu'il est convenu d'appeler la première jeunesse, Madame Ferrard était encore très séduisante et ses toilettes d'une sobre élégance lui allaient à la perfection. Mais enfin, s'habiller à Paris n'est pas un crime en soi, et si toutes celles qui le font devaient être accusées d'avoir empoisonné leur mari... En proie à ces considérations, j'hésitais toujours quand la voix de ma sœur me rappela à l'ordre, non sans une certaine impatience. « Eh bien, James, le petit déjeuner est servi, qu'est-ce que tu attends ?» Je m'empressai de répondre, « J'arrive, ma chère. J'accrochais mon pardessus. Tu aurais eu le temps d'en accrocher 12. » En quoi elle avait raison.